Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Les chiffres du FMI sont sans appel. Le décrochage entre l'Europe et les États-Unis est d'ores et déjà consommé. 0,8% de croissance en zone euro en 2024. 2,7% aux États-Unis. À tel point qu'on se demande si la Fed va baisser ses taux avec l'agenda prévu. Je pose la question dans un instant. Pourquoi l'Amérique gagne toujours et systématiquement? C'est également le thème de l'éditorial des Échos de ce matin. Aujourd'hui, les 27 justement vont tenter de définir une stratégie de rebond économique pour l'Europe. Alors à cette fin, Enrico Letta va remettre un rapport. Comment faire? Pour lui, il faut plus d'Europe dans des quantités de domaines. Mario Draghi prépare un rapport sur le même thème pour après les européennes. Il en a donné des éléments dans un discours prononcé hier. De la même manière, il appelle à faire plus d'Europe dans des quantités de domaines. Bercy dévoile en Conseil des ministres son programme de stabilité 2027. On s'accroche aux 2,7% de déficit, au point d'avoir lâché sur tous les autres domaines, notamment le ratio de dette sur PIB. On continue à parier sur le fait que les Français vont désépargner, que la consommation repartira et que l'investissement des entreprises va se maintenir. Et on va même jusqu'à parier qu'on va retrouver les gains de productivité de 2009 pour parvenir à ces niveaux de déficit. Bonjour Guillaume Dard.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Frédéric Farah, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, économiste, enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis sûr que vous allez adorer l'idée de faire plus d'Europe dans des quantités de domaines.
Oui, bien sûr.
Que je vous connais. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, on est en plein dans la thématique de votre dernier livre, hein. Membre du Cercle des économistes, et vous avez publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France. Dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Pourquoi l'Amérique gagne toujours, Guillaume Dard?
Alors, elle ne gagne pas toujours, mais pourquoi est-ce qu'elle gagne en ce moment? On peut discerner 4 ou 5 raisons. La première, c'est que l'Europe a fait le choix d'un modèle social généreux, c'est une bonne chose, mais, point 2, en contrepartie, elle est engluée dans la réglementation et la fiscalité. Ça a des poids. Par exemple, si vous prenez l'exemple des banques, les banques américaines aujourd'hui, enfin JP Morgan, c'est X fois plus grand que la plus grande banque européenne, alors que c'était dans des tailles comparables il y a 15 ans.
Il y a 15 ans, on avait des tailles comparables.
Oui, parce que post-crise de 2000, si vous voulez, en 2008, ce sont les banques américaines qui ont fait les bêtises, quelques banques européennes aussi, mais enfin, très minoritaires. Et finalement, on a mis la réglementation davantage sur les banques européennes que sur les banques américaines, et donc ça a bloqué le développement. Et ça a un coût relatif, parce que si vous avez des banques plus petites, ben, le financement. Trois, les États-Unis ont un énorme déficit budgétaire en ce moment, hein. Donc les États-Unis sont quand même boostés au déficit budgétaire. Trump l'avait fait, Biden l'a encore renforcé.
Il doit être dans les 8%,
mais,
c'est ça?
Mais la différence, différence, c'est que c'est avec beaucoup moins de pression fiscale et moins de dépenses budgétaires au total. C'est-à-dire qu'il y a un déficit qui booste, mais l'économie américaine est beaucoup moins socialisée que l'économie européenne. Et puis cinq, où sont les... Il y a des grands entrepreneurs français, par exemple, dans le domaine du luxe, bien sûr, mais chez les innovateurs, où sont-ils? Elon Musk, c'est un personnage qui a incroyablement... Enfin, un nombre de défauts absolument incroyable. Enfin, néanmoins, il a réussi à faire partir... tous les 10 jours, il y a une fusée SpaceX qui s'en va, et je ne sais plus où en est le programme
Ariane.
Et qui revient.
Et qui est fait de petits riens,
d'ailleurs. Et qui n'est pas fait de petits riens, et qui l'a quand même lancé tout seul. Il a été...
Personne n'y croyait au début.
Financé par l'État qu'après avoir fait quatre tentatives tout seul. Et c'est qu'à la quatrième tentative, alors qu'il n'avait plus d'argent, qu'il était cherché des fonds de tiroir partout, qu'il a eu le soutien de la NASA. Donc, il y a cette volonté en Europe où on croit toujours que des grandes politiques de coordination internationale vont permettre de s'en sortir, parce que le succès d'Airbus aveugle tout le monde. Parce qu'en dehors du succès d'Airbus, il n'y a pas beaucoup de grands succès européens. Et donc, comme on veut absolument que ça soit l'État plus les États, avec la complexité de s'entendre à 27 pour lancer des grands programmes, on attend, on est dans le système. Et donc, l'esprit, pourquoi l'Amérique gagne à long terme, pourquoi elle a gagné à long terme, c'est un pays d'immigrés, c'est-à-dire des gens qui ont pris des risques. Et d'ailleurs, sur l'immigration, dernier sujet, c'est qu'ils arrivent mieux à absorber leur immigration. Et Jay Powell lui-même a dit que dans la croissance des trois dernières années, eh bien, il y a eu l'afflux de l'immigration qui, finalement, a réussi à percoler, alors que nous, on ne sait pas très bien comment faire face à notre sujet d'immigration, comment les intégrer. Et ils ont, donc, si j'ose dire, ils ont tout bon, sauf qu'ils ont un gros déficit budgétaire, mais ils ont le dollar.
Ben voilà. Alors, si je reprends vos quatre points, pour moi, Guillaume Dard, la messie dite, modèle social différent, ça ne changera pas. Des banques qui ont pris une taille nettement supérieure d'ailleurs aux États-Unis à cause des réglementations prudentielles en Europe, on ne va pas les édulcorer. Un déficit beaucoup plus élevé, mais moins de prélèvements obligatoires grâce aux privilèges exorbitants du dollar. On n'aura pas le dollar, on n'a que l'euro, malheureusement, Frédéric.
Et un poids de l'État moindre.
Oui, et des innovateurs qui sont éternellement américains. On parlait des GAFAM, maintenant on parle des 7 magnifiques, qui sont peut-être 12 bientôt. Quand vous me dites ça, j'achète la démonstration et pour moi c'est fini.
C'est la fin de l'émission.
Oui. Alors, Frédéric Farah, si vous voulez poursuivre.
Ben alors, je propose un complément à ce diagnostic en disant pourquoi les Américains gagnent. Et on va se faire à l'envers, on va dire pourquoi les Européens perdent.
On peut aussi.
On peut faire pourquoi les Européens perdent.
C'est très fort, hein, il est très bon. On sent le mec qui est habitué au joutor.
Exactement. Pourquoi les Américains. Donc pourquoi les Européens perdent. Alors pourquoi les Européens perdent. Parce que c'est la sanction sur plus de 30 ans de l'échec de comment conduire une politique économique. Alors je m'explique.
Ah oui, expliquez-moi là. Alors, parce que...
Moi je l'explique.
Dites bien, conduire une politique économique pour les Européens.
Hein. Voilà. Je vais démontrer ça en essayant d'être le plus rapide et le plus clair possible. Donc, la stratégie européenne s'est construite à partir des années 90 sur les piliers suivants. C'était une politique de règles contre la politique de discrétion. C'est-à-dire qu'il fallait faire une politique de règles, c'est-à-dire le pacte de stabilité en est un, le déficit 3%, 60%. Et on avait dit, il faut bloquer les outils de politique économique traditionnelle, c'est-à-dire méfiance à l'égard de la politique budgétaire, tout sur le monétaire, et on avait dit, pour arriver à de la croissance, on va faire les réformes structurelles. Donc les réformes structurelles, réforme du marché du travail, réforme de la protection sociale, réforme sur le marché des biens et services pour plus de concurrence, et on a dit, ça c'est le programme qu'il faut mettre en œuvre. On l'a réitéré en 2000, lors de la stratégie de Lisbonne de mars 2000, 23 mars 2000 si ma mémoire n'est pas mauvaise, et on avait dit, une fois qu'on va faire ça, on va mettre en œuvre toutes ces réformes structurelles, on fait des politiques de règles, et à la fin, on a quoi ? Pacte de stabilité et de croissance, la stabilité et la croissance. Qu'est-ce qu'on a à la fin ? On n'a pas la stabilité, on n'a pas la croissance. Donc, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, quand arrive la crise de l'euro, qu'est-ce qu'on fait ? Au départ, on se dit, ah, c'est pas terrible, ces politiques de règles, il faut les remettre un peu en cause. Finalement, on abandonne ça entre 2010 et 2011. 2011, on retrouve les bonheurs de l'austérité, on flingue la croissance économique européenne et on commence à retrouver des niveaux de croissance avant crise à l'orée du Covid. Manque de bol, le Covid arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Merde, on avait oublié le budget, c'était une chose importante. Et comme au niveau national, on est contraint, la dette augmente de partout, on essaye d'inventer un instrument européen. Next Generation UE. Donc on essaie de faire un plan. Et donc, résultat des courses, aujourd'hui, on se retrouve avec un déséquilibre dans la politique monétaire, c'est-à-dire, ça a penché trop du monétaire. Le monétaire devait à la fois restreindre quand l'activité surchauffait, relancer quand l'activité ralentissait, et avec un budget au niveau national qui n'en finissait pas d'être noyé dans les dettes, et de l'autre côté, au niveau européen, on n'arrivait pas à trouver de nouveaux instruments. Qu'est-ce que nous apprend la théorie économique ? Il y a deux règles pour faire de la politique économique. Une règle d'efficacité, une règle de cohérence. La règle de cohérence, c'est la règle de Tinbergen, un instrument, un objectif. La règle d'efficacité, choisir le meilleur instrument par rapport à l'objectif visé. Or, en Europe, il y a un déséquilibre entre le budget et, comment dire, et la monnaie. Et les réformes structurelles, est-ce qu'elles ont été faites en Europe ? Oui, en Allemagne, on a réformé le marché du travail et l'État-providence. En Italie, est-ce qu'on a réformé ? Oui. Aux Pays-Bas, on a réformé. En Suède, oui. Même nous, en France, on a fait plein de réformes du marché du travail. Donc, pour moi, il y a un problème, c'est que la stratégie de Lisbonne a échoué. L'Europe ne fait que diverger et ne converge pas. On a fait Europe 2020, ça n'a pas trop marché. Aujourd'hui, tant qu'on ne repense pas l'architecture entre un niveau fédéral, c'est-à-dire le monétaire, le niveau national, c'est-à-dire les budgets, et on n'imagine pas quelque chose de plus structuré au niveau européen, on va toujours être dans une croissance molle, jamais dynamique, et on n'arrivera jamais à rattraper les États-Unis.
Mais c'est ce que dit Enrico Letta.
Voilà.
C'est ce que dit Mario Draghi.
Voilà ma démonstration.
Bah, et voilà, Enrico Letta nous dit il va falloir dépasser le niveau national dans la finance, dans les télécoms, dans l'énergie, dans la défense. Mario Draghi dit hier il faut aller plus loin dans l'union des marchés de capitaux. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on en dise un mot de cette union des marchés de capitaux. Voilà, mais... Consolider les secteurs de la défense qui sont éclatés ainsi que les télécoms. Penser qu'on a des biens communs, notamment les réseaux d'énergie. Et sécuriser les approvisionnements dans les matières premières critiques.
Voilà, mais, bah. c'est-à-dire juste un mot, c'est qu'en fait, toutes nos politiques économiques européennes ont fabriqué ce que j'appelle la grande vulnérabilité. C'est-à-dire, ça nous a rendu une vulnérabilité massive. Donc, si on ne revoit pas toute notre architecture de politique économique, et Mario Draghi le dit très bien, parce que je l'ai lu dans la Repubblica hier, italienne, il dit très bien, le monde des années 90 qui nous a fait construire nos choix, nos orientations européennes, est derrière nous. Il est temps, enfin, d'en prendre acte. Voilà.
C'est l'objectif de la réunion des 27.
Voilà ce que je voulais dire.
Mais bon, vous
êtes... Christian
Saint-Etienne, dont il ne se sortira que...
Il ne sortira rien, bien sûr.
Ah, c'est la journée d'aujourd'hui. On peut imaginer que les réflexions des uns et des autres, et notamment des leaders italiens dont nous parlons, vont pouvoir nourrir les réflexions.
Ce qui sortira, c'est un renforcement du système en place depuis 30 ans. Puisque à chaque crise... L'Europe nous enfonce et néanmoins on dit la solution c'est plus d'Europe. Alors il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot de la concurrence. Alors il faut revenir à, il y a bien sûr les choix de Lisbonne, mais il faut revenir à 1956.
Mais vous passez un peu vite sur il faut plus d'Europe. Peut-être qu'il y a des domaines comme ceux-là où il faut plus d'Europe.
Non, mais la question c'est comment. Oui. Donc je reviens à 1956, lorsqu'on négocie le traité de Rome, qui va être signé en mars 57. Et à cette époque-là, les Allemands imposent comme structure et colonne vertébrale du traité de Rome le principe de concurrence. C'est-à-dire que tout doit se régler par la concurrence et les deux seuls articles clés du traité de Rome, et y compris du traité actuel modifié par une quinzaine de traités, y compris l'acte unique, le traité de Maastricht, ainsi de suite, ce qu'on appelle le traité actuel consolidé, il n'y a que deux articles qui comptent, ce sont les articles sur la concurrence. Et au début, ce qui était voulu, c'était une concurrence sur les marchés de biens et services, mais c'est devenu, dans les mains de l'État, avec l'aide de la Cour de justice européenne, un instrument aux mains des bureaucrates européens pour contrôler non pas les entreprises du marché, mais les États eux-mêmes. Donc, on s'est retrouvé dans c'est la base et la source de cet univers de règles qu'on évoque. Alors, dans ce contexte, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle l'Europe, ce n'est pas un système politique, institutionnel et stratégique, surtout pas stratégique. Il n'y a eu aucune vision stratégique depuis 70 ans au niveau européen. C'est un système bureaucratique au sens pur du terme, c'est-à-dire au sens de la théorie des organisations et de la théorie de la régulation qui a donné plusieurs prix Nobel américains, donc la théorie de la bureaucratie. Vous avez à Bruxelles, bon, il doit y avoir 25 000 fonctionnaires, mais il y en a un millier qui tiennent le système, extrêmement bien payés, où les Français sont aujourd'hui sous-représentés. Il reste encore des Anglais de façon assez stupéfiante, mais il y a surtout beaucoup d'Allemands, de Néerlandais, qui ont parfaitement compris que c'était là qu'il fallait être. Et dans ce système-là, on a essayé de casser progressivement les États. Donc, en sous-jacent de ce système déséquilibré de politique macroéconomique, il y avait aussi la volonté de déshabiller les États, et notamment le seul qui l'a ramené en permanence sur tous les sujets, c'est-à-dire l'État français. Sachant que l'Allemagne avait un avantage dans ce domaine, qui était que les politiques allemandes étaient menées au niveau des Länder, et la Commission européenne a toujours fermé les yeux sur tout ce que font les Länder, et a toujours cogné l'État français. Donc, si on fait plus d'Europe, ça ne sera pas une Europe de nouvelles politiques macroéconomiques. Ce ne sera pas une politique stratégique européenne. Ça sera quoi ? Ça sera une politique encore plus bureaucratique, puisque c'est devenu l'essence du système.
C'est super réjouissant. Hein.
Non, mais
Oui,
mais et donc je termine par là. Si on veut avancer, moi je vais dire un truc absolument fondamental. Il faut casser le système. On ne pourra pas le faire évoluer. Oui.
Oui,
mais faut le casser. Je garde l'expression casser le système parce que j'aimerais que vous me l'éclairiez cette expression.
Guillaume.
Oui, non, mais casser le système.
Christian est comme moi un Européen, mais comme moi, il est effrayé par l'appareil bureaucratique qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'au fond, on espérait que
on voulait une Europe stratège, on a une Europe bureaucratique.
Voilà. Et parce que en plus, on espérait que la France ayant quelques tendances à la bureaucratie par elle-même, que l'Europe allait être une antidote aux habitudes françaises. Eh bien, pas du tout. Ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est une bureaucratie au carré, et je vais donner un ou deux, après la démonstration brillantissime de Christian sur l'aspect stratégique et idéologique de l'Europe, je vais donner deux exemples, par exemple. Dans l'industrie de la gestion
financière,
qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est, bien sûr, la comparaison ne peut pas être tout à fait bien faite avec l'agriculture, parce que c'est une industrie de type différente, mais enfin, grosso modo,
mais l'idéologie derrière est la même.
L'idéologie est la même, c'est-à-dire il faut privilégier le consommateur à tout prix, et donc il faut avoir une politique du moins-disant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qui sont les plus gros producteurs de gestion au monde, Nicolas?
Ça doit être les Américains, j'imagine.
Voilà. Et le deuxième, c'est la France, non?
Deuxième après, oui, c'est les Européens, mais enfin, on ne met pas les grands fonds de pension, donc c'est un peu subtil. Mais enfin, disons, les premiers, ce sont les Américains. Qu'est-ce qu'ils font les Américains quand ils vont sur le marché européen? Ils font la stratégie classique du dumping. Donc, les produits européens, américains arrivant sur le marché européen, ils sont pricés à 3 fois moins cher que la moyenne européenne, enfin 3 fois moins cher que les prix, grosso modo, parce que je ne suis pas sûr au millimètre, des prix qu'ils pratiquent sur le marché américain. Donc, et ils poussent à ce qu'il y ait des réglementations d'ouverture. C'est pour ça que l'union des marchés de capitaux, il va falloir être très prudent, parce que il faut pas que ça serve à un cheval de Troie américain, mais il y a des réglementations qui sont en cours,
débat.
On va faire l'union des marchés de capitaux.
Il y a un débat, enfin, il y a une réglementation en marche qui fait que, grosso modo, on dit il faut vraiment que le consommateur européen ait le prix le moins cher, ce qui est louable en soi.
C'est la grande théorie de Jean-Marc Daniel.
Bien sûr, sauf que, quand on parle avec Jean-Marc...
Quand il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de consommateurs.
Sauf que s'il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de consommateurs. Et que deuxièmement, là, le producteur européen, où est-ce qu'il investit l'argent? En Europe. Alors que le producteur américain, il investit un peu en Europe, mais il a un biais américain. C'est-à-dire qu'on a fait à peu près les statistiques, quand ce sont les Américains qui gèrent l'argent des Européens, ben, il y a 70% de l'argent qui repart aux États-Unis. Enfin, qui part aux États-Unis. Alors que quand c'est européen, ben, il y en a 70% qui sont investis en Europe. Donc c'est un enjeu de souveraineté. Et donc on est en train, l'Europe, de façon assez bureaucratique, avec des processus extrêmement complexes dans la trilogie entre la Commission, le Parlement et les gouvernements, parce que vous savez que tout ça, c'est à chaque fois ce qu'on appelle un trilogue d'une complexité extrême, et il faut dire que là, le citoyen européen de base, il ne peut pas suivre, et avec des lobbies américains très puissants qui font que, dans cet exemple, la bureaucratie européenne risque d'envoyer l'argent des Européens aux États-Unis, et donc ça, c'est un sujet absolument
majeur.
C'est
très important et très grave, ce que dit Guillaume.
Parce que s'il n'y a pas d'argent, parce que sur tout le reste, si en plus on envoie l'argent aux États-Unis pour ces magnificentes, alors bien sûr que de temps en temps on met chez Mistral ou quelque chose, mais ce sont des petites choses, alors que 80% de l'argent va aller là-bas, et que donc...
On va mettre 10 balles sur Mistral et 100 millions sur les magnificentes.
Oui, voilà. Et c'est ce qu'on déplore d'ailleurs dans l'attitude des épargnants allemands aujourd'hui. Mais là vous êtes en train de me décrire, c'est cataclysmique ce que vous me dites.
Avant 10h j'ai une solution.
Oui, ben j'espère. Frédéric Farah, on a 2 minutes 20, mais on y revient juste après, allez-y.
Bon, juste par rapport à ce qui vient d'être dit et qui est très important. On a eu un petit épisode, alors il n'y avait pas l'union des marchés capitaux, de ce problème. C'est les années de croissance molle dans les années 90. C'est-à-dire que pendant que l'Europe était en croissance molle parce qu'elle préparait la naissance de l'euro, l'épargne des Européens, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a servi à financer les années Clinton. Voilà ce qu'elle a servi dans ces années 92-2000. Donc, pendant que nous, on était en train de s'enfoncer dans une croissance molle, comme le disait Jean-Paul Fitoussi, eh bien, les années Clinton, c'est 20 millions d'emplois créés aux US entre 92 et 2000. C'est des années où les États-Unis se portaient plutôt bien. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? L'épargne européenne est allée financer nos amis américains.
Mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Oui. C'était rien, parce que l'Europe, ça allait pas mal à la fin des années 90.
Oui, j'allais vous dire, on avait attention.
97, 99, ça va bien.
C'était des années de belle croissance.
Attention. Avec un euro très faible.
Attention, juste sur cet épisode.
À partir de 99.
Avant, on s'est payé quand même dans les années 90, avant la fin de la décennie 90, des taux d'intérêt réels qui étaient extrêmement élevés. Et je rappelle dans le débat interdit de Jean-Paul Fitoussi combien il mettait en avant cette politique monétaire anormalement restrictive de l'époque et qui flinguait la croissance européenne. Ça, c'est un premier épisode. Et effectivement, dans la mondialisation, l'idiot utile, c'est souvent l'Europe. Bon, ça on le sait. D'ailleurs, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut observer l'Europe de l'intérieur, parce que quand on dit l'Europe, j'ai jamais dîné avec elle. Hein. Je sais pas, l'Europe, elle a dit bonjour, je suis l'Europe. Hein. Enfin, je l'ai pas vu me dire ça. Hein. Enfin, bon, à moins. Et d'ailleurs, Jacques Delors s'est pas trompé quand il disait que l'Europe, c'est un OPNI, un objet politique non identifié. Hein, il avait pas tort de le définir comme ça. Et pour revenir sur ce que disait Christian Saint-Etienne, je suis tellement d'accord. Surtout la mutation de la concurrence entre 56-57 et ce que ça devient avec l'acte unique, c'est-à-dire on passe de la concurrence non faussée à la concurrence libre et non faussée à partir des années 80. Et il y a une modification du statut de la concurrence à partir des années 80 et qui fait qu'on va fonder tout l'ordre juridique européen sur un ordre concurrentiel qui va poser un problème et qui va empêcher de construire une Europe qui va pouvoir affronter effectivement la mondialisation. Et d'ailleurs, c'était tout le débat à l'intérieur de la construction du marché unique. Il y avait ceux qui étaient pour dire il faut laisser le marché faire et d'autres étaient plus pour la logique qui était celle de construire des champions européens en quelque sorte. C'est la première famille qui l'a emporté. Et d'ailleurs, là-dessus, sur la construction du travail européen, enfin sur le marché unique européen, les travaux passionnants d'un Néerlandais qui s'appelle Bastiaan van Apeldoorn, qui a travaillé là-dessus et qui est absolument génial. Mais je tiens à le dire.
On marque une pause
pour l'occasion. Mais on reviendra sur ça.
Bon, dans un instant, je reviens là-dessus. Je veux absolument qu'on précise un peu encore une fois cette union des marchés de capitaux qui est de plus en plus mise en avant alors qu'on n'en parlait pas vraiment régulièrement il y a encore 2 ans. Et puis casser le système. Alors casser le système. Là, vous venez de me décrire une espèce de programme de perdant-perdant qui est inscrit depuis les années 50.
C'est la non-croissance européenne depuis 20
clair.
Ans.
Mais là, les chiffres sont très clairs. Bon, on marque une pause, on y revient dans un instant, puis on va quand même se pencher sur le programme de stabilité français.
Est-ce la bonne décision quelque chose ? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG. Frédéric Farah, économiste enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, qui a publié le conflit sino-américain pour la domination mondiale. L'Europe et la France, dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Le mot casser l'Europe a froissé certaines oreilles. Mais j'ai bien écouté les démonstrations, notamment historiques, qui ont animé la première moitié de cette émission. Il faut la réécrire, quoi, Christian. Il faut la réinventer. Mais ça veut dire repartir d'une feuille blanche. Alors je connais votre grande idée qu'il faudrait repartir déjà avec les pays historiques.
Non, mais il y a deux mots fondamentaux pour ceux qui ont été froissés. Et c'est très rassurant qu'il y ait des oreilles froissées quand on dit la vérité. Le principe fondateur, on vient de l'évoquer de façon différente, et la colonne vertébrale de l'Europe, c'est un principe de concurrence, mais c'est très important parce que moi je suis pour la concurrence, mais c'est un système qui a été bureaucratisé et judiciarisé par la Cour de justice. Donc c'est un système de règles, mais d'une complexité inouïe et qui vise à protéger au moins autant les bureaucrates que les personnes concernées. Et donc, le monde a changé, mais il n'a pas seulement changé parce que le monde de la politique économique des années 90 a changé, il a changé parce que on est en plein retour de l'histoire. On est en plein retour du combat pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis. Les Russes s'y mettent, les Brésiliens, les Indiens, chacun a son projet stratégique. La seule zone mondiale qui n'a pas de vision et de projet stratégique, c'est l'Europe. Depuis 18 mois, il y a des micro-changements. Il y a des changements importants au niveau national. L'Allemagne construit 4 usines de microprocesseurs. La France fait un petit ajout sur Grenoble, contesté par les écologistes locaux qui disent que l'usine va consommer un peu trop d'eau. Et donc,
et par les coactionnaires italiens.
Et quand on regarde donc l'Europe, il y a trois technologies clés du demain. C'est les biotech, c'est le numérique et c'est l'espace. Sur ces trois technologies, quand les Européens investissent 1, les Chinois sont à 5 en direction de 7 et les Américains à 10. Donc, si on regarde de l'intelligence artificielle, on a de très bons ingénieurs et de chercheurs en Europe, mais 90% des licornes de l'intelligence artificielle actuellement sont américaines ou chinoises. Sachant que 100% des plateformes mondiales, les GAFAM et les BTHX, sont américaines et chinoises. Face à ça, on nous répond par de nouvelles règles et par de nouveaux systèmes. Donc, casser, c'est pour... de la façon suivante, et je termine en une minute. Pour moi, il faut... Parce que ça fait... J'ai écrit 5-6 livres depuis 30 ans sur ce sujet. J'étais longtemps comme l'État et Draghi en disant il faut modifier et faire évoluer l'Union européenne. Je pense intimement que ce n'est pas possible du fait de la bureaucratie systémique du système et que donc il faut ramener l'Union européenne actuelle à trois fonctions uniquement. 1, le marché unique. 2, le contrôle des frontières. Et 3, la stabilisation de l'ordre démocratique interne. Et il faut, à côté de l'Union européenne, pour sortir du système bureaucratique, construire une Europe puissance de quelques pays qui se mettent à investir sur les biotech, le numérique et l'espace.
Ah, ok.
Alors,
Guillaume, puis oui. Frédéric Farah.
Donc c'est bien cassé pour reconstruire. Non, mais
dans la lancée de Christian... Je crois, en fait, on aime beaucoup, en France et en Europe, discuter autour d'idées, de concepts. Mais on ne compte pas assez. Et donc, ce que Christian a lancé comme en disant ça se passe de 1 à 7, il faut se rendre compte... Donc,
la Chine et 10 les US.
Voilà, et 10 les US. Il faut se rendre compte que TSMC, une entreprise de Taïwan, c'est
le géant immense, taïwanais des semi-conducteurs. Hein,
il est non seulement en train d'investir à Taïwan, mais il va investir aux États-Unis. Et la taille des investissements, c'est des 50-60 milliards de dollars. Et puis, on peut le répliquer à l'envi. Ce qui s'est passé... Intel met 100 milliards. Pour les Chinois, sur la voiture électrique, on n'a pas les chiffres, mais ils ont eu... Là, j'étais en Asie, les Chinois, ils rient jaune, si j'ose dire ce mauvais jeu de mots. Au contraire, ils sont très contents. Parce qu'ils disent, ah ben vous avez mis en place, à juste titre, nous chez Montpensier, on est à fond pour la transition climatique, mais néanmoins, le fait qu'on s'éloigne des voitures thermiques. Ils disent, les voitures thermiques, on vous aurait jamais rattrapé parce que votre qualité pour fabriquer des moteurs est telle que jamais. Mais par contre, avec votre règle que vous avez mis en place un peu trop à l'avance, vous nous avez donné le temps. En 2 ans, finalement, ils avaient fermé pendant le Covid, mais enfin pas tout à fait parce qu'ils lancent des gammes sur les voitures électriques absolument énormes. Ce sont des dizaines de milliards de dollars d'investis. Et donc, le sujet de l'Europe, au-delà de tous les aspects de gouvernance qu'on vient d'évoquer, c'est que la priorité donnée au modèle social de transferts sociaux, etc., la demande à laquelle on a habitué la population en disant « oui, il faut transfert », et j'écoutais sur votre antenne à 8h15 Monsieur Croquerel, où tout l'argumentaire s'est dit « mais non, il faut rendre aux gens ». Bien sûr qu'il faut rendre aux gens et il faut avoir un modèle social protecteur, mais si on a un modèle social trop protecteur et qu'on n'a aucun moyen de suivre la course d'investissement, eh bien on passe de Ligue 1 en deuxième division. Et si on est en deuxième division, ben il n'y a pas les mêmes salaires en deuxième division et le bien-être européen collectif et le modèle social sera en jeu. Et donc ça, c'est très difficile, et particulièrement dans notre pays, de l'expliquer parce qu'on dit, ah ben non, le problème c'est le salaire de M. Tavares. Je me moque du salaire de M. Tavares. Le sujet, c'est qu'il a quand même fait une boîte automobile où qui gagne maintenant 19 milliards et qui n'est plus Peugeot. C'est un peu de Peugeot, mais c'est un tout petit peu de Peugeot. Donc ce combat, c'est comme quand il y a une guerre, une vraie guerre, ben on compte quelles sont les troupes et quels sont les moyens militaires et combien d'obus on a. Sinon, on va perdre. Et donc, il faut que l'Europe dégage des marges de manœuvre quand même. Peut-être elle a une épargne importante qu'elle peut mobiliser. Si on en parle avec Christian, ça c'est clé, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi produire de la richesse.
Oui, mais alors... Frédéric Farah, mais on va avancer après, parce que je voudrais quand même qu'on parle du programme de
Alors, je vais être rapide, mais vraiment le sujet...
Après avoir taillé un costard à l'Europe sur 35 ans...
Non, mais je vais être rapide, mais c'est tellement important ce dont on parle. Donc, tout d'abord, c'est toute la difficulté de faire de transformer une puissance qui s'est construite sur une base commerciale et du libre-échange en une puissance stratégique. C'est-à-dire, l'Europe, au départ, elle s'est rêvée comme comme quelque chose de commercial. Et si on doit refaire de l'histoire, après l'échec de la CED en 54, eh bien, la dimension politique disparaît au profit d'une dimension beaucoup plus commerciale là-dedans. Et elle a cédé dans les années 90, l'Europe, à trois illusions. La première, c'était la fin de l'histoire. La deuxième, la mondialisation serait heureuse. Et la troisième, les États-Unis vont s'occuper de notre sécurité. Ça, c'est les trois illusions dans lesquelles l'Europe a basculé. Bon. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que même pour financer tout ça, il faut changer le logiciel et les représentations. Quand on a fabriqué une BCE, à qui on a donné l'objectif principal, pas unique, parce que c'est dans le texte, c'est principal, c'est la stabilité des prix. Il y avait à l'intérieur de cet objectif un sous-jacent problématique. C'est-à-dire, c'était quoi ? Attention, s'il y a trop de croissance, je vais sortir l'arme monétaire et je vais faire en sorte de faire redescendre le truc. Donc, en gros, le mot d'ordre de la Banque centrale, dès le début, c'était « Attention, s'il y a trop de croissance, ça va créer de l'inflation, je casse l'affaire. » Donc, dès le départ, la musique intérieure, c'était « Il ne faut pas qu'il y ait trop de croissance. » Et je rappelle la modification de la Fed en...
C'est un peu dur, hein, comme exemple.
Si, parce que de facto...
Non, mais ça peut se lire comme ça.
Non, mais de facto, si de 99, naissance de la BCE, enfin, naissance de l'euro, à aujourd'hui, à un moment donné, la zone euro a été leader de la croissance mondiale, j'aimerais savoir quand et à quelle heure. Parce que cela n'est jamais arrivé. Jamais, jamais.
Et vous rendez la Banque Centrale Européenne co-responsable ou carrément responsable de cette situation.
C'est comme en 47, quand on a modifié le statut de la Fed, c'était pour intégrer un objectif de croissance et d'emploi, parce qu'il y avait eu la crise des années 30. Chacun a son traumatisme. Les États-Unis sont prêts à tous les déficits, prêts à tout l'endettement, parce qu'ils veulent pas revoir le chômage des années 30, revenir devant eux. Nous, on est devenus allemands monétairement, parce qu'on est devenus... On veut pas l'inflation des années 20. Donc, on est devenus allemands monétairement, stupidement.
Ça, on l'a toujours dit, que la BCE était un clone de la Bouba.
Mais bien sûr. Et d'ailleurs, pourquoi le premier, c'était un Néerlandais qui était à la tête de la BCE? Parce que comme le Florin avait abdiqué pour le Mark depuis Trippet, on a mis un Néerlandais pour ne pas mettre...
Wim Duisenberg.
Wim Duisenberg. Paix à son âme, puisqu'il est décédé. Bon, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas changé ce logiciel dans le fond, et je rejoins effectivement Christian Saint-Étienne, on peut casser l'État-providence dans tous les sens, et on en a fait des réformes structurelles en Europe dans tous les sens. Aujourd'hui, on est face à un trilemme, c'est un... Est-ce que je maintiens l'état social? Je ne peux pas maintenir en même temps l'état social, l'équilibre budgétaire et les investissements d'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on choisit dans le trilemme? On prend 2 sur 3. Alors, moi, je veux bien croire qu'on peut casser l'Europe sociale, mais est-ce que c'est ça qui va nous redonner les élans pour pouvoir être plus efficace sur la tech ou ailleurs? Je crois pas.
Bon, effectivement, quand je vous écoute depuis tout à l'heure, je pense qu'il faut pas attendre grand-chose comme conclusion définitive de ce qui va se passer aujourd'hui à Bruxelles.
Non, mais ce qui est inquiétant, c'est que...
Sans Saint-Étienne.
Là, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est crucial, c'est... ce qu'on propose, c'est une restructuration d'un modèle qui a échoué.
Bien sûr.
C'est ça qui est clé.
D'accord, mais moi je me demande...
La question, c'est toujours crucial dans une entreprise, au fond, on a un nouveau leadership qui arrive dans une entreprise en faillite. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les forces de l'entreprise? Ce sont ses compétences, ses salariés qualifiés et sa connaissance quand même des marchés et produits. Dans le cas de l'Europe, vous avez une Europe qui, mais c'est fondamental, qui a été construite sur ce principe de concurrence, parce qu'effectivement, les Allemands considéraient que le commerce par la concurrence amenait la prospérité, ce qui était leur propre modèle depuis 45. Ce que l'on observe néanmoins, c'est que c'est dans les années 90 que s'accélère la nouvelle révolution industrielle. Or, au début d'une nouvelle révolution industrielle, que ce soit la révolution de la vapeur ou la révolution de l'électricité, on a besoin de grand programme d'État pour accélérer la transition vers le nouveau modèle. Ça a été les investissements qui peuvent être financés par de l'argent privé ou de l'argent public, mais dans le cadre d'un plan d'État, ça a été la construction notamment de tout le système ferroviaire au 19e siècle qui a été un élément d'accélération considérable.
Non. Pardon ?
C'était oui, privé. Oui, mais dans un cadre public qui favorisait...
Pour pas refaire toute l'histoire.
Christian Freycinet qui donnait les autorisations. Bien donc, voilà.
Pour pas refaire toute l'histoire, c'est ce qu'il faut répéter aujourd'hui.
Voilà, et c'est ce qu'il faut répéter. Et ce que je dis sur cette question centrale, que l'Europe, c'est pas une bureaucratie, si vous voulez, au sens où on l'entend d'un système qui est constitué de fonctionnaires qui bossent pas. Ce que je dis, c'est que c'est consubstantiellement un système bureaucratique et que donc, par nature, il ne peut pas proposer une stratégie d'essor. Okay, et c'est pour ça que je dis, il faut recentrer l'Europe sur le marché unique. Moi, je suis pas contre la concurrence, mais si on n'a pas une politique stratégique d'investissement dans les technologies du futur et dans l'Europe de la défense, on ne s'en sortira pas. Et c'est là
qui va être le maître d'œuvre de cette politique stratégique.
Ah ben actuellement c'est pas Macron. Ce que je crains, c'est que Scholz, avec la réforme des marchés de capitaux, nous éloigne de ce modèle, puisque comme l'a dit Guillaume, ce qu'a dit Guillaume est terrifiant. En fait, je n'avais pas complètement pris conscience de ça. C'est-à-dire que l'Europe des marchés de capitaux pénétrée par les grands investisseurs américains sera en fait un détournement massif de l'épargne européenne vers les États-Unis. C'est monstrueux, c'est terrifiant, c'est insupportable.
Je voudrais rajouter.
Allez-y.
Parlons de nouveaux chiffres, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis en ce moment, ni que la Chine. Il y a tout l'axe du Sud qui est en train, le corridor du Sud qui va du Moyen-Orient. Avec tous les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Indonésie, Singapour, l'Asie du Sud-Est. Tous ces, peut-être pas l'Inde, mais tous les autres ont des fonds souverains d'une puissance colossale, où on parle là aussi en milliers de milliards, en centaines de milliards de dollars, c'est sûr, et en milliers de milliards quand on parle de l'Arabie Saoudite. Les projets qui sont en train de se lancer dans toute cette zone qui échange avec à la fois la capacité énergétique du Moyen-Orient, la capacité technologique de l'Inde et de la Chine, plus les développements des pays un peu plus au sud, sont d'une puissance incroyable. Et là aussi, on est dans un moment d'innovation. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas des modèles sociaux admirables. Je suis pas en train de dire que c'est un objectif. Je suis simplement en train de faire le point sur la concurrence mondiale qui a lieu. C'est-à-dire qu'on, États-Unis, Chine, tout le monde le sait. Toute cette zone-là est d'une puissance incroyable. Quand, au fond, les Anglais, ils avaient dit on va faire Singapour en Europe.
Oui, je me souviens.
Mais c'est qui Singapour?
Singapour sort à
C'est qui Singapour en Europe maintenant?
C'est Dubaï.
Eh oui, c'est Dubaï. C'est Dubaï. Alors, évidemment, en France, on dit Dubaï, c'est horrible. C'est sûrement horrible. Je ne dis pas qu'il faille aller à Dubaï. Mais
Dubaï qui a réalisé le projet anglais.
C'est Dubaï qui... Vous voyez ce que je veux dire?
Mais je vois ce que vous voulez dire.
Tous ces arbitres...
Je suis d'accord avec Frédéric Farah. Quand vous avez installé un modèle social comme le nôtre, vous ne pouvez pas tout régler d'un trait de plume. Diviser par deux.
Je suis en train de dire qu'il va falloir qu'on trouve...
Sans investissement stratégique, on sera obligé de trouver le modèle social.
Oui, on ne peut pas avoir le modèle social et pas avoir le fonds de pension.
Oui, mais ça.
Et vous le dites vous-même, les Allemands réessayent, on n'a pas de fonds de pension puissant en Europe.
Mais les Allemands le font à l'allemande. Oui, on n'est pas en train d'apporter une réponse européenne.
J'ai compris, mais il faut plus d'argent.
Et ça va continuer, en fait. Les Allemands vont utiliser les instruments européens pour se réarmer eux-mêmes.
On l'avait compris, on avait fait le fonds stratégique.
Mais je suis tout à fait d'accord avec l'effet qu'effectivement, revenir en arrière sur le modèle social, c'est pas possible. Alors, puisque, vous aimez bien quand je cite des auteurs économiques, alors je vais citer un autre effet, ce qu'on appelle l'effet Peacock-Wiseman, qui est un effet cliqué, c'est-à-dire que Peacock-Wiseman explique que... c'est content, je pensais pas évoquer Peacock-Wiseman aujourd'hui.
Mais allez-y, parce que là, vous allez nous apprendre quelque chose.
C'est le septième sur la liste qu'il coche ce matin.
Voilà, c'est le septième sur la liste, parce que j'adore, je suis passionné d'histoire de la pensée économique et de l'histoire économique. Donc voilà. Donc Peacock-Wiseman nous explique que lorsque les dépenses publiques s'accroissent avec les guerres et sous l'effet des crises, et qu'il est très difficile après de revenir en arrière, et qu'une fois que l'État a pris cette place et les dépenses ont augmenté, revenir en arrière devient de plus en plus compliqué. Et il prend l'exemple des crises et des guerres, où il voit que l'intervention des États augmente, ça donne la naissance, par exemple, de l'État social, on ne peut pas revenir en arrière. Et je crois qu'il y a effectivement cet effet cliqué de Peacock-Wiseman qui est tout à fait vérifiable.
On est en train de le vivre à la sortie des 4 années qui viennent de s'écouler.
Et c'est là. Alors évidemment, Reagan en France, c'est pas très populaire. Mais vous connaissez la phrase de Reagan, les 9 mots les plus dangereux en anglais. Le gouvernement va venir pour vous aider. Voilà. Et c'est là où il a fait le basculement. Parce qu'aux États-Unis, ils ont quand même basculé dans cette vision en 1980. Ils ont basculé. Et donc, l'effet Peacock-Wiseman, là, il y a eu une interruption. Néanmoins,
pour malgré tout, les auditeurs, téléspectateurs qui... faut pas qu'il se suicide à 10 heures.
Il m'a écrit très bon plateau ce matin, mais triste Europe.
Voilà.
Il s'appelle Olivier.
Ce que je voudrais vous dire, c'est que personnellement, sauf un choc de remise en question de la construction européenne.
Mais ça, j'ai compris
comme
ce que vous
imaginez.
Oui, oui, mais j'ai compris ce que vous disiez. Je me demande qui va le faire.
Je suis français, moi. Il se trouve que je vais vous faire une déclaration d'amour. Il se trouve que j'aime la France. Je ne vais pas le développer. Je ne sais même pas pourquoi, mais la France est dans mes tripes. Et je me dis, je réfléchis sur le plan géostratégique. Je me dis, voilà, les Américains, les Chinois, les Indiens, les Russes, tout le monde se bat pour niquer les autres. Et nous, nous sommes l'idiot non seulement du village, mais le dindon qui se fait plumer. Oui. Et dans ce contexte,
content de le faire.
Et voilà. Et je me dis, voilà, je serai à la tête de la France. D'abord, il faut faire le constat qu'on a fait ce matin. Si on le fait pas, si on dit la solution c'est plus d'Europe, on a déjà perdu. Mais si on fait le constat qu'on a fait ce matin, on se dit comment je sauve ma peau. C'est ça en fait qu'on, je voudrais qu'on dise. Est-ce que la France peut sauver sa peau dans ce contexte? Et là, pour moi, la réponse est oui. Et pourquoi la réponse est oui? C'est que d'abord, je vais
mais
faire
du Farah. Il faut resserrer.
Ouais, ouais, mais j'inverse le problème. On a 56 points de dépenses publiques.
Oui, 56. Bah,
on a un max de pognon. Il suffit de restructurer à l'intérieur et les marges de manœuvre, elles sont là.
Hein, ah donc, quand vous avez beaucoup de dépenses, beaucoup d'impôts, vous êtes très gras, donc vous avez des capacités
voilà, donc,
de maigrir.
Donc, et ça, or, quelle est l'ampleur, et je termine par là, de l'effort qu'il faudrait faire pour revenir dans la course?
10 points. Allez.
Non, c'est peanuts, c'est que dalle. Moi, avec 30 milliards d'euros par an, sachant que ça fait un point de PIB, puisque le PIB 2024
à peu près de ces zones-là,
29 milliards pour un point.
On est à 29 le point.
Ouais, on va être à 2900 milliards cette année. Ouais, donc le point est à 29. Donc avec 30 milliards par an, je vous change la France. D'abord, je vous donne juste quatre exemples et je ne les développe pas.
Nicolas. On va dire un mot de la France.
La réindustrialisation, c'est 50 000 hectares, 10 000 hectares par point. Le gouvernement a malgré tout changé le discours par rapport à il y a 10 ans et il vient d'annoncer hier ou avant-hier qu'on va mettre sur la table 3 000 hectares. Sauf qu'il dit que ça va être progressivement d'ici 2027-2028. Moi, je dis que d'ici 2027-2028, il faudrait 50 000 hectares.
Sites industriels. Hein.
De sites à industrialiser. 30 000 venant des friches et 20 000 de nouveaux hectares. Ben, je crée une agence nationale du foncier qui achète les hectares, qui les prépare, qui les met sur la table.
On ne développe pas.
Je parle de l'intelligence artificielle. On est bon. Qu'est-ce qu'a annoncé le gouvernement? 500 millions par an. Tu passes à 5 milliards, tu changes la donne.
Voilà.
Okay. Les biotech, mettre quelques, c'est pareil. Si tu mets 20 milliards sur l'espace, les biotech, le numérique et la défense, plus une politique sur les terrains sur la construction et sur la politique sociale. Moi, je suis un libéral stratège qui pense que l'État a un rôle fondamental à jouer et surtout, je suis un fils de pauvre. Et je pense que sur l'État social, ce qui est très important, ce qui est décisif, c'est l'éducation. Et il faut remettre le paquet sur l'éducation à l'école primaire.
Moi, je vote
pour pas continuer d'avoir des gamins qui ne savent pas lire, écrire et compter à la fin.
On a eu un programme France et un programme Europe.
Je vote pour le programme de Christian, je crains qu'il faille changer aussi un peu de structuration réglementaire et fiscale française. Et vous vouliez lancer un autre sujet
Le pacte, le programme de stabilité qui est présenté en Conseil des ministres par le ministre du budget qui, bon, je vous le fais court, on a tout lâché sur la dette, hop, on oublie les objectifs de dette pour espérer tenir l'objectif de déficit. Et pour y parvenir, on dit qu'on va faire 20 milliards d'économies en 2024, 25 en 2025, il n'y a pas de chiffre en 2026, mais heureusement les Français vont désépargner, donc ils vont consommer, et heureusement la Banque Centrale va baisser ses taux, donc l'investissement va repartir, et puis vous allez voir, les gains de productivité vont redécoller.
Bon, il faut espérer que ça soit vrai, Nicolas, il faut espérer que ça soit vrai, il ne faut pas forcément désespérer, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne devrait baisser ses taux, et ça c'est pas négatif, le seul sujet c'est que la Fed n'a pas très envie de le faire, que l'euro dérape un peu, et que ça posera des questions ensuite d'inflation importée, et donc c'est toujours un jeu complexe. Mais tout ça ne donne pas les 50 milliards les 30 milliards que donne Christian. Et d'autre part, on s'aperçoit de la tentation, et là on a, heureusement on va pas lancer le sujet, mais de la hausse des impôts qui se profile, où tout le monde dit il va falloir remonter les impôts. On rappelle qu'on est encore le pays où il y a le plus d'impôts et que les recettes de l'État sont à 53% du PIB. Donc on n'est déjà pas du tout dans un pays ultralibéral, on est dans un pays le plus socialisé des grandes démocraties occidentales. Donc,
et même de la planète.
On disait hier avec Danny Lang que la France était un modèle soviétique qui avait réussi.
Et donc, voilà, c'est ça, mais qui avait réussi. Qui avait réussi et qui est en train de déraper. Donc, il va falloir absolument douter, parce qu'on vient de dire qu'il va falloir avoir de l'épargne et l'utiliser pour les investissements productifs, pour la transition climatique.
C'est clair, mais ça, c'est bon.
Et aussi, à titre individuel, pour la retraite, qui va être probablement un peu baissée, pour la dépendance, etc. Donc, si on essaye, j'entends la petite musique, là, il faudrait augmenter l'impôt sur le capital. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont du capital, mais la plupart des gens, c'est leur épargne. Ils ont déjà payé leur impôt sur le revenu dessus. Donc, vouloir à tout prix les retaxer, ça va bloquer. Et puis, plus c'est taxé, moins c'est mobile, cette épargne. Et donc, elle ne sera pas investie vers le productif. Donc, et les taux marginaux, parce que j'ai été intéressé dans l'émission d'hier, les droits de succession, vous n'aviez pas en tête que c'était 45%.
Le marginal,
si. Oui, mais on dit que ce n'est pas assez progressif. C'est 45%. Et généralement, c'est des gens qui ont gagné leur argent. Et l'impôt sur le revenu, il est à combien? Il est à 45, plus 3 ou 4. La contribution exceptionnelle de 2011, elle est toujours là.
Mise en place
donc, on est à 50% d'impôt, plus les charges sociales. On est hyper.
Mais on est d'accord.
Et non, donc, ce n'est pas en tout cas. Et puis, quand on dit on va éliminer des dépenses fiscales, quand j'entends le mot, les cadeaux aux entreprises.
Une dépense fiscale, c'est une quasi-hausse d'impôt.
Une dépense fiscale. Donc, en tout cas, luttons contre ça.
Ok, bon. On a une minute 8. Frédéric Farah, si vous voulez dire un mot là-dessus, sur la crédibilité de la France. On a eu le message d'espoir de la France dans les tripes de Christian Saint-Etienne.
Non, mais
Il faut aller vite, là.
Mais je pense que si on veut y arriver, il y a aussi une autre réforme à faire, c'est la réforme des élites. Je rappelle que...
La réforme des élites ?
Oui, j'explique pourquoi.
Bah oui, vous avez 50 secondes.
J'ai 5 secondes. 50 secondes, je vais vous expliquer. Quand on perd en 1870, on crée Sciences Po parce qu'on se dit il faut que de nouvelles élites répondent au problème, parce qu'on dit c'est la défaite de la France par rapport à la Prusse, parce que ça. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a créé l'ENA parce qu'on a dit il faut une nouvelle élite pour préparer l'après-guerre. Je pense qu'effectivement, pour ce dont parle Christian Saint-Etienne, qui est essentiel, peut-être nos imaginaires, nos représentations économiques doivent évoluer considérablement à travers la reformation des élites en tant que telles. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, l'État où il fait des économies, il le fait sur sa réforme des retraites, donc en était une bancale, et deux, sur la réforme de l'assurance chômage. Attention, et je terminerai là-dessus, à ne pas recréer un comité George May de 1931 en Angleterre.
Qui était le huitième,
qui avait expliqué que pour répondre à la crise, il fallait faire des coupes dans l'assurance chômage, il fallait faire des coupes dans la dépense publique. Et quand Keynes a lu le rapport du comité May, il a dit c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue dans ma vie.
Sauf que la dépense publique en Angleterre, elle était à quoi? À 20%
du PIB. Mais c'est l'esprit.
Elle était à 20% du PIB.
C'est l'esprit.
Non mais.
Eh bien,
c'est
voilà.
Bon, ben, 80, enfin 100 ans de Keynes, on pourrait dire. Eh bien, il y a un moment où Keynes était formidable, mais trop de Keynes, c'est très dangereux.
Et Nicolas, vous avez posé la question, qui va faire ça? Je pense que personne ne va le faire à froid. Pourquoi c'est important, ces débats? C'est qu'il faut préparer les décisions qu'on devra prendre à chaud.
Je pense que j'aurai l'occasion de vous reposer la question, pourquoi l'Amérique gagne toujours dans quelques mois. Merci à vous d'avoir été là, Guillaume Dard, Frédéric Farah, Christian Saint-Etienne. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.